Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale. À l'occasion du Festival International des Jardins aux Ortillonnages d'Amiens qui se déroule du 26 mai au 16 octobre, je suis allé interviewer les artistes qui exposent leur œuvre. Depuis combien de temps vous travaillez dessus ?
J'ai l'impression que ça fait longtemps.
Depuis avril, non ?
Oui, voilà, depuis début avril, on a fini pour le 25 mai. Oui, on a l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps parce que ça a été toute une réflexion depuis décembre.
Et est-ce que vous pouvez nous parler du collectif Nova ?
On est juste un groupe d'étudiants donc à la Fac des Arts en arts plastiques. Les enseignants nous ont demandé de créer un projet en nous présentant l'appel à projet des Ortillonnages. Et on s'est réunis à 8 et on a créé ensemble. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre projet ?
Alors, c'est une pyramide inversée au centre d'un cabanon blanc. Et sur les vitres, on a fait une mosaïque de couleurs avec des filtres colorés. Et l'idée, c'est de... Quand le soleil est au-dessus du cabanon, on peut voir des formes à l'intérieur du cabanon, notamment sur le sol et les murs qui sont blancs. Et voilà. Et quand il n'y a pas de soleil, on a quand même la pièce principale qui est la pyramide inversée.
Et comment est-ce que vous avez eu l'idée ?
Quand on a pensé le projet, on devait s'adapter donc aux Ortillonnages, qui est un lieu donc naturel, respectueux de l'environnement et qui n'a pas d'électricité. Et c'est vrai que quand on a pris cette contrainte-là, qu'il n'y a pas d'électricité, on a décidé de jouer avec ça et d'essayer d'apporter de la lumière dans un endroit où on ne peut pas en apporter normalement.
Bonjour Vincent Mauger, est-ce que vous pouvez nous parler de vous ?
Bonjour, donc moi je suis artiste, je fais essentiellement de la sculpture et de l'installation. J'aime bien les pièces de grande dimension, je suis surtout repéré pour des pièces de très grand format, donc soit en extérieur, soit en intérieur, mais j'aime bien que les pièces créent une impression physique sur le spectateur, qui est quelque chose de, que ce soit des sculptures qui nous dominent plutôt que des objets qu'on domine.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre œuvre Lao Kun ?
Donc là, c'est une pièce qui a été faite spécialement pour les Ortillonnages. Donc on a fait une première visite en hiver, donc dans un contexte assez différent. Mais ce qui est intéressant dans les Ortillonnages, c'est la possibilité de jouer avec l'eau, d'avoir des pièces comme ça posées sur l'eau dans des lieux qui forment comme des clairières, comme des enveloppes autour de l'œuvre et qui permettent que l'œuvre elle dialogue avec un contexte de nature et un écrin de verdure comme ça. Ce qui me plaît aussi, c'est la possibilité donc de mettre une pièce sur l'eau avec ce que ça implique, le fait que la pièce puisse légèrement tourner. On n'a pas la même façon non plus de découvrir l'œuvre que habituellement où on marche et où on contrôle bien ses mouvements. Là, on a comme un travelling qu'on peut faire en circulant en barque autour de l'œuvre. Et donc, la sculpture joue un peu avec cet aspect de travelling, avec une forme facettée, donc à base de facettes triangulaires qui prennent la lumière, qui sont comme un pliage dans l'espace. Et le soleil va venir jouer sur ces facettes et va souligner le relief et va permettre, quand on tourne autour, d'avoir une vision de l'œuvre assez diversifiée suivant les points de vue qu'on aura dessus.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette œuvre et pour le nom aussi, j'aimerais savoir. D'où vient le nom ?
Le nom, ça vient d'une sculpture antique, donc avec des formes qui serpentent comme ça autour de personnages où il y a... Donc c'est une forme de sculpture antique, mais qui a été reprise aussi par des artistes plus contemporains, notamment un sculpteur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Richard Deacon, et qui a fait une sculpture comme ça, mais dans un vocabulaire complètement différent de celui que j'emploie là, mais avec cette idée de forme qui serpente dans l'espace. Et donc, comme on est dans un espace avec de l'eau comme ça, j'avais envie d'une forme qui émerge, donc comme une sorte de serpent de mer. Donc qu'on soit dans quelque chose d'assez étrange, à la fois presque technologique, par la façon dont l'objet est construit, mais qu'en même temps, par ce jeu de lumière qui se crée sur l'objet, ce jeu de reflets, il ait quand même sa place et qu'il y ait quelque chose de paradoxal où on a beau avoir un objet qui est de l'ordre d'un ovni, finalement, ils se font pas si mal que ça dans ce contexte-là. Donc c'est jouer sur ce paradoxe.
Ça vous a pris combien de temps pour travailler dessus ?
Y a le temps de réflexion. Ensuite, il faut élaborer les plans. J'ai mis pas mal de temps à faire les plans. Donc, on a été prévenus la visite, c'est en janvier, je crois, décembre-janvier. Donc, pour qu'elle soit finalisée là, hier, véritablement. Donc, fin juin, quoi. Bon, après, j'ai d'autres projets en cours, donc c'est pas du travail continu comme ça, mais c'est par période. Et puis, quand on pense à des sculptures, c'est des choses qu'on garde en tête tout le temps, même si on fait quelque chose d'autre, on a ça. Et puis, il y a des déclics qui peuvent se faire à partir d'un travail annexe ou de quelque chose qui n'a rien à voir, qu'on voit ou qu'on rencontre.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres projets ?
Actuellement, j'ai un projet à Château-Gontier, qui a un parcours d'œuvres dans la ville qui s'appelle Gontierama. Donc, je présente une pièce Place de la Mairie, mais qui est dans un registre complètement différent. Puis j'ai une exposition à Amboise, donc avec une œuvre dans le château d'Amboise. Et puis dans le centre d'art de la ville qui s'appelle le Garage, qui est tout à côté du château.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux collectifs ?
Bonjour, donc je m'appelle Antonin Amiot, je suis co-gérant de l'agence Les Marneurs, qui est une agence d'architecture, de paysage et d'urbanisme. Je suis associé à Julien Roman et Geoffrey Clamour, qui sont tous les deux architectes. Et donc on travaille principalement sur les questions de territoire, d'architecture et d'urbanisme et de paysage. Et avec cette conscience de prendre soin des ressources à chaque fois dans le cadre de nos projets. La question de l'eau évidemment, les ressources matérielles aussi. On s'intéresse également à chaque fois percevoir les projets à l'échelle du territoire et vraiment les réancrer à une échelle beaucoup plus dézoomée. Et enfin, sur la question aussi des usages, quelque chose d'essentiel en fait dans les pratiques d'architecture et de paysage.
Ouais. Donc, c'est Simon Lemutrici, donc je fais partie du collectif Dallas. Donc, c'est un collectif qui a débuté en 2018 à Bruxelles. Voilà, donc on est architecte de formation et donc on est quatre architectes de formation avec Camille Gaillard, Salomon Tyler et Amaury Veillard. Et donc on fait différentes installations, beaucoup en espace public, et qui peut varier des échelles et qui sont à la fois éphémères ou pérennes, et toujours dans une réinterprétation un petit peu des usages et des manières de construire, avec la spécificité toujours de concevoir et de construire ce qu'on réalise. Voilà. Donc on est un peu à la double casquette comme ça de conception et de construction.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ?
C'est Antonin qui est venu nous voir parce qu'il connaissait bien ce festival via son... je vais te laisser parler peut-être de toi.
Disons que moi je suivais le travail du collectif Dallas à travers plusieurs projets qu'ils ont réalisés à Bruxelles. Notamment un projet d'occupation temporaire sur les casernes d'Ixelles, où ils ont développé un projet d'un vélodrome en bois, donc c'est comme ça que je les ai découverts. Et c'est vrai que nous, dans notre pratique côté agence Les Marneurs, on est avant tout des concepteurs, mais souvent on fait réaliser finalement les projets qu'on dessine. Et là, à travers le festival des ortillonnages, c'était vraiment une occasion pour nous de pouvoir... un peu comme le décrivait Simon, c'est-à-dire concevoir un projet et également le construire, le mettre en œuvre. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a aussi sollicité le collectif Dallas pour son expertise et son savoir-faire de chantier. Et on les a associés voilà, dès le début de la candidature pour cette nouvelle saison des ortillonnages, pour concevoir donc, le projet de la cale, à la fois dans sa globalité et plus spécifiquement sur la question de la construction bois, puisque là il y avait un vrai sujet. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, la cale ?
Alors, le projet de la cale, il essaie de questionner finalement la façon dont est fabriqué le paysage des ortillonnages. On est sur un territoire effectivement baigné dans l'eau, sur lequel émergent comme ça des îlots quelques dizaines de centimètres au-dessus du niveau du plan d'eau, de l'étang de Clermont. Et donc finalement, ce travail perpétuel de gratter la vase, la ramener en surface et constituer ces îles nous a fortement questionnés. Et on est arrivé en fait à la définition d'un outil, donc qui est cette cale en bois, qui permettrait finalement d'aller chercher au plus près de l'eau la matière première pour constituer ces îles. Et ensuite constituer finalement un exhaussement de cette terre et un jardin qui est lié. Quoi. Je ne sais pas si tu veux compléter, Simon.
Ouais, c'est tout à fait ça. Il y avait aussi toujours ce rapport entre les différentes strates un petit peu qu'on a avec effectivement le niveau de l'eau, qu'on approche finalement très peu, qu'on affleure très peu, c'est-à-dire qu'on est ou alors en bateau ou alors sur des pontons et sur les îles, mais toujours un peu au-dessus. On a voulu vraiment aller chercher la surface de l'eau et de cette surface s'élever un petit peu pour aussi monter au-delà des îles qui sont aussi très linéaires, très plates, et on a aussi voulu aller chercher un petit peu la hauteur pour changer un petit peu le point de vue de ces îles. Et donc finalement, dans le prolongement de cette cale, il y a un mur de terre, finalement, une sorte de parallélépipède en pente qui prolonge la cale et qui raconte aussi la manière donc, effectivement, dont sont créées les îles qui sont tout à fait anthropisées, qui ont été créées par l'homme et qui sont donc toujours, comme le racontait Antonin, entretenues. Et donc en fait ce mur de terre, c'est un petit peu refaire une sorte d'île sur l'île et qui va raconter ça, qui montre les strates, qui montre la matière première et aussi qui va avec le temps certainement s'éroder. Et donc ça raconte aussi ça, l'érosion naturelle de ces îles et le besoin de les entretenir pour qu'elles puissent continuer à exister, que le paysage finalement reste celui-ci ou alors change totalement.
Et alors peut-être pour décrire aussi aux auditeurs donc, qui ne voient pas forcément l'installation, c'est vrai qu'on est, donc on a cet objet qui est la cale, le mur, et on a volontairement aussi réaménager les îles pour avoir d'un côté cette grande zone en fait en pelouse qui est extrêmement neutre et montrer aussi finalement que l'apport de cette terre, c'est aussi un support pour la culture, puisque les ortillons, c'est avant tout la culture maraîchère. Et donc une fois passé finalement l'installation du mur et de la cale en bois, on arrive dans un jardin extrêmement luxuriant qui témoigne aussi de cette richesse finalement qu'est cette vase qui sert de support pour la culture, le maraîchage, etc. Quoi.
Et combien de temps ça vous a pris à mettre en place ?
Vous voulez dire le chantier, la mise en œuvre du chantier ?
La conception et le chantier.
Alors le travail de conception à l'amont, donc de plans, de réflexion, ça s'est fait en quelques semaines finalement. On a eu des ajustements avec le staff technique aussi du festival pour vraiment arriver à la justesse du dessin par rapport aussi à la dimension festival. Et après le chantier en tant que tel, il y a eu une dizaine de jours de chantier. On a eu, alors faut savoir que l'ensemble du chantier s'est fait à la main, donc c'est un chantier qui était non mécanisé. On a juste eu une assistance effectivement technique pour extraire la vase, puisque là on a à peu près 16 mètres cubes qui ont été extraits de l'eau pour pouvoir constituer ce mur banché. Mais voilà, un des objectifs aussi de ce chantier, c'était vraiment de travailler avec à la fois des modes de faire qui fonctionnent à la main et avec des outils non thermiques, quoi, non mécanisés. Quoi.
Parce qu'en fait, on subissait d'office comment dire, l'environnement des ortillonnages, et à savoir le manque d'électricité finalement qu'on peut être habitué à avoir accès facilement dans nos chantiers habituels. Et donc là, on a choisi justement de prendre le parti d'utiliser ça à fond et de pas justement aller chercher des machines thermiques ou quoi, et de profiter de ça puisqu'on est dans un cadre qui est quand même très agréable, et voilà, avec des, je sais pas, c'est un cadre très naturel avec le son des oiseaux, de la nature, enfin on est vraiment dans un cadre assez idyllique, et donc on a voulu aussi jusqu'au bout essayer de préserver tout ça et d'avoir un chantier qui était le plus silencieux possible, quitte à prendre plus de temps. Donc c'est vrai que ça a été plus laborieux, mais on avait aussi envie de ça, de montrer aussi que, enfin, l'installation finale montre aussi tout le labeur qu'il y a eu, tout ce travail de ramener la terre, de planter les poteaux, de planter les plantes, enfin tout ça a été fait tout à fait manuellement, et on avait aussi envie que ce soit visible et de pas tricher, en tout cas le moins possible.
Est-ce que vous pouvez nous parler des autres actualités de vos deux collectifs?
Je réfléchis deux secondes. Donc là, on est. Alors, la spécificité là pour l'agence Les Marneurs, c'est qu'on est à la fois implanté en France, à Paris, et également à Bruxelles. Donc, on a une double activité, si vous voulez, sur le, on va dire, les marchés publics belges et français. Donc, en ce moment, sur Bruxelles, on travaille principalement sur des commandes publiques d'aménagement de. Alors, on travaille beaucoup sur la question des cours d'école. On a un projet sur un terril aussi à Charleroi où on installe un parc climatique. Donc voilà, on a une diversité de projets, mais à chaque fois on ramène effectivement cette question, cette problématique que j'expliquais au début de l'interview sur où est-ce qu'on met les pieds, quelles sont les dynamiques de ce territoire, quels sont les enjeux climatiques de ce territoire. Et voilà, porter vraiment une attention à chaque fois en partant de la grande échelle pour petit à petit arriver à l'échelle de l'intervention, et pour être le plus juste possible sur ces questions de ressources, d'usage, de lien avec les territoires. Et donc c'est quelque chose qu'on développe à la fois sur la Belgique, mais également avec mes deux associés, donc en France, où on a des projets aussi qui sont très en lien avec les questions du rehaussement du niveau marin. Donc on a plusieurs projets là sur la côte atlantique où on réfléchit, on questionne ces territoires qui sont en quelque sorte menacés aujourd'hui par le changement climatique.
Et donc nous, on a actuellement un grand projet qui est à une échelle plus importante que ce qu'on est habitué à faire, de ce qu'on est habitué à faire habituellement, qui est la réalisation d'un petit pavillon, d'un bâtiment temporaire qui va être réalisé pour l'activation, on va dire, et la participation dans une friche à Bruxelles, à la gare de l'Ouest de Bruxelles. Et donc on va réaliser la construction de ce pavillon qui est en fait conçu démontable, parce qu'il va rester que temporairement sur le site 5 ans, et après il sera voué à être remonté autre part pour un autre usage. Et celui-ci a aussi la spécificité d'être en matériaux de réemploi le plus possible. On est quasiment, on ne va pas dire à 100%, mais on essaye de s'en approcher vraiment. Quasiment la totalité des matériaux sont en réemploi. Et donc voilà, c'est un grand projet qui nous prend beaucoup de temps actuellement et qui est un bon challenge pour nous, parce que c'est une échelle qui est au-delà de ce qu'on est habitué à faire, et en même temps qui touche à des enjeux importants et disons pas faciles à mettre tous ensemble, et donc c'est un bon challenge technique, on va dire, qui nous intéresse. Ouais. Et à côté de ça, on a une exposition, on est en train de travailler sur le montage d'une exposition pour prolonger un projet qu'on a fait de déminéralisation dans l'espace public, d'aller carotter, scier l'asphalte, extraire de la matière, de cette matière la réagencer pour faire du mobilier, des choses construites, et de ces trous qu'on vient faire dans l'asphalte, on la déminéralise, et donc on permet l'infiltration des eaux de pluie, la plantation de végétaux. Et donc on va monter une exposition qui essaye d'aller chercher encore un peu plus loin, de prolonger un petit peu cette première expérience qu'on a eue, pour voir un petit peu les limites, les possibilités. ça questionne le matériau, ça questionne aussi les plantes qu'on retrouve dans les interstices de la ville, les végétaux qu'on appelle mauvaises herbes, mais qui finalement ont des caractéristiques et des propriétés qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, c'est une affaire à suivre.
Merci beaucoup. Merci. C'était une interview des artistes du Festival International des Jardins aux Ortillonnages d'Amiens qui se déroule du 26 mai au 16 octobre. On se retrouve demain pour la suite de ces rencontres. Salut !